Et salut les gars, on se retrouve pour ce premier épisode de ce podcast dont je ne connais pas encore le nom, mais ce qui est sûr, c'est que ça va parler de SaaS. Et aujourd'hui, on a avec un invité d'exception. Bon, on dit ça dans tous les podcasts en vrai, mais il faut le dire quand c'est vrai. Je te laisse te présenter, Eric, nous dire un peu ce que tu fais là, ce que tu as fait, comment t'en es arrivé ici, et puis voilà.
Salut Yanis, déjà merci pour l'invite. Moi c'est Eric du coup. Ça fait 1 an et demi, 2 ans qu'on a lancé avec mon associé un SaaS qui s'appelle Instantflow. Et récemment du coup, on a atteint les 20 000 de MRR. Voilà, il y a 2, 3 mois, un truc comme ça. Sachant que voilà, ça oscille vraiment parce qu'on a un churn quand même intéressant, enfin assez élevé, donc pas très intéressant. Mais on
Donc
arrive à rentrer du monde et tout.
churn pour ceux qui nous écoutent, ouais, c'est le pourcentage de personnes qui partent, qui arrêtent l'abonnement, quoi.
Ouais, taux d'annulation, désabonnement en gros. Donc voilà, en fait, on a lancé un SaaS sur Insta. Donc un SaaS pirate, en fait, entre guillemets. Donc c'est un truc qui m'intéressait parce que voilà, ça répondait à un problème et on a lancé ça il y a un peu plus d'un an et demi. Ça va faire 2 ans en septembre. Et vraiment du moment où on a démarré de zéro le projet from scratch. Donc aujourd'hui, voilà, on est là. Je reçois une
Exactement.
invitation d'Yanis pour un podcast.
C'est ça. Parce que pour expliquer un peu, petit peu, nous, on a déjà fait un appel en fait la semaine dernière. On a bien discuté, etc., justement de Instantflow et de tout ce que tu faisais autour. Parce que pour ceux qui ne te connaissent pas encore, tu as aussi 4K sur YouTube. Donc tu l'as déjà dit, Instantflow, actuellement, quasi à 20K MRR à peu près. Mais tu es aussi très connu dans l'environnement Go High Level. Il
Ouais,
me semble
beaucoup
que tu
de vidéos
as
sur ça.
une communauté school. Dont School, pour ceux qui connaissent pas, c'est un peu un Discord payant qui vise un peu plutôt les professionnels, je dirais. Et tu as aussi une formation Go High Level. Donc en fait, tu vises vraiment une niche en particulier. Et on verra ça aussi après, que c'est un point intéressant chez toi, c'est que tu te concentres vraiment sur une niche et c'est quelque chose que je recommande de faire.
Ouais, exactement.
Est-ce que j'ai donné à peu près toutes les infos? C'est à peu près ça, je crois.
J'aurais pas dit mieux, honnêtement.
C'est ça.
Ouais, Go High Level, j'aime beaucoup ce logiciel. Et en fait, l'idée de mon ça, c'est parti aussi un peu de Go High Level à la base. C'est pour ça que je suis très passionné par cet univers d'agence et de SaaS. Les deux peuvent se mêler très bien, je trouve. Et c'est aussi pour ça que ma niche n'est pas très bien définie sur YouTube, parce que je parle un peu de ces deux univers qui sont pas forcément les mêmes, mais elles s'entrecroisent et je parle vraiment au croisement de ces deux niches, en fait. Et c'est pour ça que je fais des vidéos un coup sur les agences, un coup sur les SaaS. Parce que c'est deux choses qui peuvent être liées.
C'est ça. Parce que ouais, pour ceux qui, bon, peut-être qu'il y en a qui te connaissent, mais tu fais du coup beaucoup de vidéos sur les SaaS, mais aussi beaucoup de vidéos avec donc le SaaS Go High Level. Pour ceux qui connaissent pas, très rapidement, c'est un outil tout en un où tu peux créer ton site, faire de la prospection, tu peux faire vraiment plein de choses. Donc c'est un truc hyper intéressant. Et aussi tu peux le redistribuer en marque blanche. Qu'est-ce que ça veut dire marque blanche? Ça veut dire que typiquement tu peux vendre ça à une autre entreprise en disant bah ce SaaS-là. Donc Go High Level, c'est mon SaaS à moi et tu mets ton branding dessus avec ton logo, etc.
Exact.
Et ils sont hyper hyper connus dans le milieu. Ils ont une belle stratégie d'acquisition en fait, où avec des gars comme toi qui vont revendre la solution, ils vont faire un gros chiffre d'affaires.
Principalement, leur stratégie principale, ouais, c'est du micro-influenceur, j'ai envie de dire.
C'est ça. Donc écoute, bah tu t'es bien présenté, je pense qu'on a compris qui t'étais. Maintenant on va parler de Instantflow, qui est donc un SaaS que tu as quand même monté à 20K MRR. Et moi, la première chose qui m'intéresse, parce que je vois ta réussite, tu vois, on voit que bah ça y est, c'est cool pour toi, t'en es là. Est-ce que avant de lancer Instantflow, tu as eu des échecs? Est-ce que c'était ton premier SaaS? Voilà. Ou qu'est-ce que tu as fait avant, en fait, niveau
C'était mon
SaaS?
premier SaaS, mais ce n'était pas mon premier business.
Ouais, ok.
Je ne sais pas, j'ai dû en lancer une dizaine de business, honnêtement, différents. Vraiment, tous confondus, je pense que j'en ai lancé une dizaine.
Ouais.
J'ai commencé avec le trading il y a, je sais pas, j'ai 28 ans, j'ai dû commencer à 22 ans le trading. Avant ça, voilà, j'étais à la fac, etc. Je n'avais pas forcément lancé de business. J'avais fait un peu de MLM à un moment donné, très rapidement, quand j'avais 18 ans, mais rien de spécial. J'ai découvert le trading, je me suis lancé dans le trading. C'était à l'époque où il y avait Trade4U, je sais pas si tu connais, mais t'étais
Non, je
plus jeune à
connais
mon
pas,
avis, t'avais pas
voilà.
forcément. Ouais, c'était des mecs de Barbella en plus, qui étaient pas forcément hyper quali, mais bon, je m'intéressais au trading et je les suivais un petit peu. Après le trading, j'ai découvert le e-com en fait, parce que j'étais en école de commerce à ce moment-là et j'ai un pote de Paris qui est descendu, qui m'a montré sa boutique, etc. Et moi, je connaissais rien à tout ça, vraiment un noob total dans le business en ligne. Et du coup, j'étais hyper impressionné de savoir qu'on pouvait faire de l'argent avec un site web. Enfin, moi, j'étais choqué, j'y connaissais rien. Moi, pour moi, il y avait le salariat, il y avait des patrons de grosses entreprises, c'était tout, tu vois, il n'y avait rien d'autre. Et donc, à ce moment-là, ça m'a ouvert vraiment les yeux sur ah ouais, d'accord, il y a tout un business qu'on peut faire en ligne et tout avec le e-commerce. Et là, j'ai passé à peu près 2 ans et demi à vraiment être à fond là-dedans. Enfin, c'est-à-dire qu'il y a eu un déclic quand il m'a montré ça. C'est-à-dire que j'étais dans une asso, par exemple, dans mon école de commerce. Je ratais tout le temps les réunions d'asso. Enfin bref, j'étais tout le temps focus sur mon Shopicom pendant 2 ans et demi. Et puis entre-temps, bah, pendant ces 2 ans et demi-là, en fait, j'ai lancé des boutiques, mais j'ai fait également d'autres business. Par exemple, on a lancé un concept sur Deliveroo avec un pote à Paris.
Okay.
Donc moi, j'étais déjà expatrié à Marbella à ce moment-là. Mm-hmm. Mais lui, il était à Paris, donc j'ai investi un petit peu. On a lancé tout le concept. Il était hyper bon cuistot. Ça s'est ramassé complet. On a eu 0 client. Okay. Parce que quand tu lances un resto à Paris sur Deliveroo, accroche-toi à la concurrence. Mais bon, nous, on était des noobs encore une fois. On commençait, donc voilà. J'ai fait aussi une agence de revente de business manager sur Facebook. Parce que les e-commerçants, ils ont un gros souci, c'est qu'ils doivent faire de la pub. Et la pub sur Facebook, tu te fais shutdown ton compte super facilement. Donc voilà, on a fait un business de revente de business manager, qui n'a pas très bien marché non plus. L'agence NFT, qui a super bien marché. Mm-hmm. Donc là, avec notre réseau, on prenait des projets NFT et on faisait les designs. On avait embauché des designers français et on recrutait des projets NFT. On faisait tout le design de A à Z, la génération avec les algorithmes.
Donc en fait t'as profité, tu m'avais dit, donc de la vague du Covid, enfin c'est arrivé à peu près en même temps.
Exactement,
c'était en même temps que les NFT, etc. Et du coup t'es un peu arrivé au moment, au début où il y avait la hype des NFT, t'as créé ton agence là-dessus et ça a hyper bien marché parce qu'il y avait une grosse demande et peu de propositions.
Demande énorme, ouais.
Ouais.
Elle était trop grosse en fait, les designers n'arrivaient pas à suivre, donc il y avait trop de demandes par rapport aux offreurs et ce qui faisait qu'on avait des projets assez facilement.
Ok, donc déjà pas mal de projets. Hein. Là, on est à peine début Covid.
Ouais.
L'agence de NFT.
Non, l'agence NFT, en fait, c'était en. Parce qu'en fait, c'était fin 2020, tu sais, pendant le confinement.
Ok.
Que j'ai lancé mon dernier Shopicom. Enfin, un de mes derniers Shopicom. Et que j'ai réussi à scaler. Et c'est ça qui m'a permis, justement, de venir à Marbella. Et à ce moment-là, les NFT, c'était 2021. Donc, à partir d'avril 2021, ça a commencé à vraiment se faire connaître. Okay. Et nous, on a lancé notre agence. En décembre 2021.
Okay.
Donc on va dire que c'était au pic où il y avait le plus de projets qui étaient en création. Il y avait vraiment plein de projets NFT et finalement c'est à ce moment-là qu'on a lancé vraiment l'agence avec les designers, etc. On a fait tout le recrutement en genre un mois. Okay, tous les designers et etc., etc.
Et donc toutes ces expériences-là finalement, déjà on a vu qu'il y a pas mal d'échecs. Donc la réussite, elle vient pas forcément sur le premier projet. Même si c'est ton premier projet SaaS, t'as quand même une grosse XP derrière. Et toi, du coup, sur ce projet, ça, c'était arrivé surtout avec une expérience plutôt dans le marketing, dans l'acquisition client.
Ouais, exactement. Rien dans les SaaS, pas d'expérience SaaS particulière. On a dû toucher un peu au code quand on faisait du e-com. Sur quelque chose, l'agence NFT, il y avait du code aussi. Tu sais, quand on faisait le mix avec les algorithmes, on travaillait avec des codeurs, avec des développeurs qui faisaient les smart contracts. Donc, c'était mettre les NFT sur la blockchain.
Ouais.
Donc, le code, ça me parlait, mais je suis pas codeur, je sais pas coder, quoi. Donc, on va dire qu'on a embauché des développeurs.
Ouais.
Et même sur le projet SaaS, en fait, on a eu une explosion rapide dans les premiers mois. Mm-hmm. Mais après, on a connu un plat pendant quand même un moment, en fait.
Okay.
Et là, on a sorti, on a fait un peu un pivot.
Pour ceux qui nous écoutent, est-ce que tu peux, avant qu'on avance un petit peu, rapidement expliquer justement ce que fait InstantFlow
En fait, le SaaS, ce qu'il fait, c'est que il va faire la prospection pour toi sur Instagram et sur Facebook. Donc, plus sur Instagram, il est vraiment adapté à Insta à la base. Mm-hmm. Parce qu'on a remarqué qu'il y avait plein de personnes qui allaient prospecter sur Insta. Donc, aller chercher des clients sur Insta, comme tu le ferais pour LinkedIn ou par email. Tu envoies un email à la boîte et puis tu attends au client final. Tu attends une réponse et ensuite, ça démarre sur un appel de vente, etc. etc. Nous, en fait, on a vu qu'il y avait un gros marché sur Insta. Donc, parce que Instagram, c'est la deuxième plus grosse plateforme. Il y a 1 milliard et quelques d'utilisateurs.
Quand tu dis, vous avez vu qu'il y avait un gros marché, genre ça a été quoi votre méthodologie pour justement dénicher un peu, tu vois, vraiment l'opportunité là-dessus, quoi.
On associait Closer, en fait.
Ok.
Et il closait pour Nezar, donc c'est un gars qui est dans Closing, un formateur Closing. Mm-hmm. Et en fait, en discutant avec lui, à ce moment-là, en plus, j'ai découvert GoHighLevel en même temps.
Hein. Mm.
Donc à ce moment-là, en fait, en parlant avec lui, je me dis, OK, il y a plein de gens qui cherchent des clients sur Insta. J'ai remarqué qu'il y avait des outils pour LinkedIn, pour Facebook. pour la prospection, donc qui envoyait des DM pour toi. Mais il n'y avait pas grand-chose sur Insta, en fait. Enfin, je ne trouvais pas un truc qualitatif, je ne trouvais rien, en fait, vraiment rien du tout. Et du coup, je lui ai dit, mais pourquoi ils n'utilisent pas des outils, ces gars-là? Et il me dit, bah, ils ne connaissent pas. Donc là, je l'ai regardé, je lui ai dit, mais t'en utilises un si t'en avais un à 40 balles par mois qui te faisait le taf? Il me dit, bah ouais, c'est trop chiant, on doit se taper toute la prospection et tout. Du coup, je réfléchis, je me dis, ok. Et vu que j'avais compris, enfin, que j'avais découvert GoHighLevel à ce moment-là, GoHighLevel, ce que ça permettait de faire, c'est qu'il y a toute une partie automatisation. Avec des connexions à ton Insta, à ton WhatsApp, à ton Facebook, pour bah, répondre aux messages avec des automatisations, tu vois. Donc, potentiellement filtrer tes messages, etc. Mais il y a, enfin, cette partie automatisation, en réfléchissant, d'un côté, il y avait mon associé qui me parlait du closing et du besoin qu'il y avait sur Insta. Et d'un autre côté, je vois GoHighLevel qui permet d'automatiser tes messages Insta. Mais que tes réponses, pas d'aller chercher du client. C'est automatisé quand quelqu'un t'envoyait un message. Et moi, en fait, il y a un truc, je sais pas, il y a une connexion qui s'est faite, tout simplement, en se disant, ok, mais si je crée un truc pour aller chercher du client, et qu'en même temps, bah, je proposais un upsell à mes clients, bah, GoHighLevel, avec ma marque blanche, pour pouvoir bah, gérer tes messages, répondre, filtrer, etc. Par exemple, quand quelqu'un te dit, oui, je suis intéressé, bah, ça va démarrer sur un workflow spécifique. Quand il te dit non, bah, ça va le catégoriser dans une pipeline pas intéressé, par exemple. Donc, c'est vraiment ces deux choses. Je sais pas si c'est clair ce que j'explique, mais...
Ouais, c'est ça. Donc, en gros, tu avais ton ami, donc lui qui était déjà un peu dans cette niche-là.
Ouais.
Et du coup, il t'a parlé justement de cette problématique qu'il avait. Puis, tu as vu qu'il y avait une opportunité parce que tu voyais pas vraiment de personnes qui le faisaient. Mais tu n'es quand même pas parti de rien parce que tu as vu qu'il y avait des gens qui faisaient exactement ça, mais juste pour d'autres réseaux sociaux. Et tu t'es dit, bah attends, c'est quand même dommage.
C'est ça, il y avait un besoin.
Et donc, en fait, l'idée a été confirmée par, juste par le fait qu'il te dit, bah moi, je suis prêt à payer. Donc, si tu le fais, moi, je paye, quoi, carrément.
C'est ça. Et surtout que bah, vu qu'il avait une grosse communauté de closers avec lui, qui était dans des groupes, même lui, dans la communauté, il avait créé un groupe dans le groupe, en fait. C'est-à-dire qu'il y avait un groupe où il y avait, je crois, ils étaient 6500 en tout.
D'accord.
Dans son groupe, ils étaient genre 250, un truc comme ça.
Et c'était le leader un petit peu ou il faisait partie de cette
communauté? C'est lui qui avait créé le groupe.
D'accord, ok. Oui, donc en fait, t'avais... ça, c'est le truc parfait.
Les planètes alignées, si tu veux, en fait.
Ouais,
c'était parfait.
Exactement. Donc, tu avais déjà la niche de potentiels clients qui était là, qui était quasi prêt à acheter.
Ouais.
Est-ce que tu es allé plus loin pour vérifier l'idée? Genre, est-ce que tu as fait une petite landing page avec peut-être un endroit où on peut rentrer l'email pour attendre le produit? Est-ce que tu as fait un truc comme ça ou juste aller leur demander et ils ont tous dit let's go?
En fait, c'est marrant parce qu'à ce moment-là, du coup, moi j'ai eu l'idée, mais on l'avait pas encore fait le SaaS en fait. Il n'existait pas encore.
Ouais.
Par contre, il y avait GoHighLevel. Du coup, on s'est dit, on va essayer de valider quelque chose avec un demi-projet entre guillemets. On s'est dit, s'ils automatisent juste les réponses et qu'ils ont leur système de pipelines, tu vois, pour gérer leurs leads, bah, c'est déjà mieux que juste sur Insta, trier à la main dans ton inbox, en fait. C'est horrible. Des fois, en plus, les conversations, elles disparaissent. C'est un enfer, en fait, pour faire de la prospection.
Totalement.
Donc, si tu chopes pas l'email ou le numéro de la personne très rapidement, tu vas potentiellement perdre le lead assez facilement sur Insta. Mais nous, si on passe le compte Insta en business, parce que t'as créateur et business sur Insta, si tu le passes en business, Insta te file l'API du compte. Grâce à l'API, tu vas pouvoir automatiser plein de choses et notamment le connecter.
Pour ceux qui ne savent pas, l'API, c'est un endroit sur lequel on peut se connecter pour avoir les informations du compte Instagram directement ailleurs, donc dans une application ou dans un service tierce.
Ouais, exact. En fait, l'API te permet d'automatiser des choses directement dans l'app, ce qui est très intéressant dans plein de situations.
Ouais.
Et du coup, ben, ce qu'on a fait, c'est qu'on a proposé GoHighLevel en marque blanche à ce genre de personnes. Bah pour directement trier tes leads, pouvoir les relancer, etc., etc., grâce à GHL, GoHighLevel, et sans lancer le projet directement SaaS, en fait.
Ouais, donc en fait, ça t'est venu direct l'idée, toi, de prendre GoHighLevel, parce que t'étais déjà un peu là-dedans, et vous l'avez directement mis en marque blanche pour le proposer justement à cette niche de 200 personnes que lui avait. Voilà, GoHighLevel, c'est ce qu'on a dit tout à l'heure, c'est le SaaS qu'on peut vendre en marque blanche, donc il a vraiment, t'as rien créé, en fait, t'as juste repris. Et t'as payé l'abonnement GoHighLevel pour tester l'idée, une sorte de MVP en fait, mais hyper simplifié. C'est parfait, c'est un c'est un proof of concept.
C'est
ça. Et à ce moment-là, t'as combien de personnes qui vous suivent là-dedans et
on a à peu près une dizaine de personnes qui vont prendre l'abonnement.
Ok, abonnement à combien?
97.
Ouais, bah ça valide l'idée. Hein.
Ouais, mais en fait pas trop parce que c'est justement c'était à peu près en septembre 2022. Ouais, 2022.
Ok.
Et c'est justement là où on s'est ramassé la gueule la première fois. Parce que du coup, septembre, début septembre ou fin août, un truc comme ça, 2022. Parce que okay. le projet, il va être lancé en septembre, en fait, vraiment, Instant Flow. Mais là, du coup, on va directement monter le SaaS en marque blanche, faire les tutoriels. Enfin bref, on a tout fait à l'envers. J'ai fait tous les tutos, moi, perso, pour les mettre dans le SaaS. Donc, expliquer 100% du SaaS et tout. Enfin, j'ai fait toutes les erreurs en même temps, je pense. Et, donc, j'ai perdu un temps monstrueux à faire ça.
Ouais, donc, t'as fait trop de choses, en fait, au début.
Exactement. J'ai tout voulu préparer comme si c'était déjà finalisé, en fait.
Ouais, ça, c'est un peu l'erreur qu'on retrouve souvent chez les créateurs de SaaS. Souvent, au début, on a tendance à vouloir tout que soit parfait avant de lancer. Alors que c'est pas forcément nécessaire pour tester, surtout pour tester l'idée, quoi. Parce qu'à ce moment-là, tu sais pas encore si ça va marcher ou pas.
Bah, pour moi, j'étais sûr, en fait, que ça allait marcher. Parce que je me disais, c'est trop bien. Ça te permet de gérer tes leads avec tes pipelines. Mais en fait, je suis pas closer, moi. Donc, j'ai eu l'idée. Mon associé, il m'a laissé un peu, il m'a confirmé que c'était bien. Mais en même temps, les closers, c'est pas des gens très à l'aise avec la tech. Et ça, c'est le truc que j'avais pas pris en compte. Parce que GoLevel, quand même, c'est une énorme machine. C'est une usine à gaz.
Oui.
C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de choses. Pour le prendre en main, c'est compliqué. Du coup, ben, on va dire que la transition de ces closers de Insta vers GoLevel, elle s'est moyennement passée. Ouais. Et c'était pas du tout la niche sur laquelle il fallait qu'on parte. En tout cas, c'était pas la niche à qui il fallait vendre GoLevel en l'état sans service.
Ouais.
Sachant qu'en plus, c'était des gens qui avaient pas forcément énormément de budget. Du coup, ils sont arrivés sur GoLevel, ils savaient pas comment connecter le compte, ils savaient pas comment utiliser les automatisations. Il y avait les tutos, mais ils les regardaient pas. Il y avait les pipelines, mais ils voyaient, enfin, ils s'en servaient pas, tu vois.
Et justement, ils n'avaient pas fait la formation, comme tu l'as dit, complète, qu'ils pouvaient regarder.
Si, mais ils regardaient pas et il y avait trop de vidéos. Enfin, c'était, en gros, en fait, c'était juste un outil dont ils voulaient pas, en fait.
Ouais, ok.
GoLevel, je parle, pas Instant, ouais, trop compliqué. Trop compliqué. Et le fait de vouloir rajouter du service pour les coacher et tout, pour leur mettre en place, c'est trop cher et c'était pas la cible qu'il nous fallait, en fait.
Ok. Donc là, vas-y, je te laisse continuer.
Non, vas-y, parce que j'allais repartir dans une explication.
Donc là, lancement, boum, t'arrives à avoir 10 personnes.
Ouais.
Donc, t'es quand même content, je pense, de
ouais, dire,
OK, j'arrive à vendre à 10 personnes, etc. Toi, avant ça, parce que maintenant, t'as ta personal brand, etc. Mais est-ce qu'à ce moment-là, déjà, t'avais déjà un petit YouTube, un petit des réseaux qui étaient activés?
J'avais rien du tout, là.
Ok, donc là, t'étais vraiment à nu, t'es parti sans stuff.
Ah, rien, c'est ça.
Mais bon, les étoiles se sont alignées. Alors, pour ceux qui nous regardent, souvent, quand on a une idée de génie comme ça et que les étoiles sont alignées, souvent, c'est pas bon. mais là, avec une chance, ça, c'était vraiment bon. Donc,
mais
t'avais quand même la niche pour tester l'idée, quoi. T'as 10 personnes qui ont acheté.
Ouais, mais 10 personnes qui ont acheté, mais ça veut pas dire que ça allait marcher, en fait. C'est pas parce que t'as 10 personnes qui sont hypées. Parce que toi, enfin, on était trop bons vendeurs, on y croyait trop à notre projet à ce moment-là. Du coup, quand on en parlait aux gens, on avait des étoiles dans les yeux. Enfin, limite, on leur vendait que, je sais pas, moi, ils allaient faire un milliard avec ce truc-là. Alors que c'était juste pour les aider à automatiser certains trucs. Et du coup, je pense qu'on l'a trop bien vendu. Après, sur un groupe de 200 membres ou 250 membres, il n'y en a que 10 qui ont vraiment testé aussi. Tu vois? Donc, c'était pas non plus, surtout que ces 10-là, ils sont pas restés longtemps. C'est ça que j'ai pas encore dit.
Ouais, parce qu'ils sont pas. Du coup, ils sont restés combien de temps ces 10
En moyenne, ils sont tous restés un mois ou deux, quoi.
Ah, donc, ouais, ils sont tous partis direct.
Le projet, il a fait ça, ouais. Quoi. Okay. Tu vois.
Et donc, pendant un mois, du coup, ils sont donc sur le GoLevel marque blanche, donc t'as encore rien construit.
Ouais.
Qu'est-ce qui se passe après? Tu te dis, est-ce qu'ils vont partir? Est-ce que t'es confiant? Est-ce qu'à ce moment-là, tu commences à développer un truc?
En fait, justement, à ce moment-là, on avait quand même discuté avec eux de plein de choses.
Ok.
Et même pas que avec eux, avec plein d'autres gens. Et en fait, on avait remarqué que le gros problème, c'était pas de manager ses leads avec des pipelines. En fait, ils s'en foutaient, ils voyaient pas l'intérêt. Ce qu'ils voulaient, le vrai problème, c'était d'aller chercher du lead et faire de la prospection, d'envoyer des messages, cibler les gens. Donc, en gros, le truc qui n'existait pas.
Ouais, ce qui faisait pas encore, GoLevel ne proposait pas ça, quoi, justement.
C'est ça. Et ça, c'était vraiment le pain point, la fonctionnalité qui manquait, qu'il leur fallait.
Ok.
Et là, ça a validé un peu mon idée de dire, OK, bon, maintenant, GoLevel, c'est très bien, on va le vendre. Mais il faut aussi qu'on fasse un truc, c'est créer notre SaaS et le vendre en upsell aux personnes qui voient l'intérêt, en fait, d'aller plus loin. Parce qu'en fait, tu as deux choses. Tu as le produit d'appel, donc le SaaS, qui est un peu, entre guillemets, un lead magnet parce que c'est un produit très viral. Ce fait-là d'aller prospecter automatiquement, ça répond tellement à un problème fort qui t'ennuie vraiment au quotidien que finalement, les gens, ils vont venir tester. Et quand ils viennent tester, on a encore quelque chose à leur vendre, en fait, qui va encore plus leur automatiser la tâche. En plus, avec des chatbots IA aujourd'hui qu'on met en place pour nos clients, qui vont vraiment filtrer et qualifier les leads pour toi de manière automatisée. Et ça, ouais. C'est l'upsell, c'est GoLevel.
Ça, c'est un truc hyper intéressant que tu fais. C'est que toi, en fait, tu te sers de ton SaaS pas comme l'offre finale, etc. Mais vraiment comme un truc qui va attirer toutes les personnes qui sont intéressées par automatiser, systématiser ce système-là, justement, d'aller contacter des gens sur Instagram. Et ces personnes-là, elles sont forcément tous de plus ou moins la même niche que par la suite, tu vas pouvoir attirer sur une offre encore plus chère qui va te rapporter encore plus de gains.
C'est
ça, c'est le truc qui est hyper intéressant avec ton offre. C'est comme tu te concentres sur la même niche, bah, tu dois les connaître hyper bien. Tu sais exactement c'est quoi leurs douleurs, leurs objectifs, etc. Et t'as différents produits qui répondent à différents de leurs besoins. Et ça, c'est trop fort. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment le truc à faire.
Ouais, bah, c'est le truc à faire. Après, c'est dur d'avoir ce produit-là pour te différencier au début. Moi, en fait, ce que je voulais pas avec GoLevel, c'était d'avoir juste GoLevel. Parce que, après, j'aime bien compliquer les choses aussi. J'aurais pu très bien le vendre directement comme ça. Et c'est ce qu'on fait, hein, avec certains clients. Parce que vu qu'on a quand même une bonne notoriété aujourd'hui, on a des groupes Facebook et des groupes avec beaucoup de monde, on a beaucoup d'opportunités qui nous viennent. Ah, j'ai telle personne, c'est un gros business, il a besoin d'un outil comme ça avec ton CRM et tout. Est-ce que vous voulez qu'on vous mette en relation? Ça nous arrive tout le temps, en fait. Okay. Du coup, ben, on a des gros clients à qui on fait tout le setup. C'est plus de l'agence SaaS. J'aime bien ce mot parce que, du coup, tu fais du setup, c'est un peu de l'agence. Mais derrière, c'est que de l'automatique. Tu vas venir affiner certaines choses s'il faut, si le client il te le demande, mais sinon, il n'y a rien à faire, en fait. Mais c'est vrai que ce côté-là d'avoir créé notre SaaS, ça nous permet d'avoir la différenciation que personne n'a, en fait. Donc, personne ne pourra venir demain nous concurrencer nos clients de GoLevel parce que nous, on vend pas que GoLevel. On a aussi une autre solution qui vient attirer les gens en premier lieu. Donc, on n'est pas là à se battre dans le même… même si en vrai, le marché, il est énorme, hein, surtout pour un outil comme GoLevel.
Mais ça, je pense que c'est un truc hyper intéressant qui va faire un déclic à pas mal de gens. C'est que toi, tu vois vraiment pas le SaaS comme le produit final. Tu penses vraiment en termes de… Il y a vraiment un énorme environnement qui vient englober la niche. Et tu contrôles en fait différentes parties de cette niche. Tu me dis que tu as des groupes Facebook, tu as ta formation school, tu as ton YouTube. En fait, tu as plein de portes d'entrée. Ils vont rentrer dans ton espèce d'écosystème. Et dans cet écosystème-là, donc tu contrôles une espèce de niche, tu vas pouvoir leur vendre différents produits en fonction justement des profils. Mais grosso modo, comme c'est la même niche, tu auras toujours un truc à leur proposer, quoi.
C'est ça. Et c'est ce qui est marrant, c'est que à la base, quand j'ai lancé ma chaîne YouTube, c'était un truc qui était différent de nos clients GoLevel, nos clients Instant Flow, etc. Et là, petit à petit, en fait, les deux se mélangent, j'ai remarqué. Ouais. En fait, il y a plein de gens qui viennent me voir sur YouTube. Ah, j'ai vu que tu avais un SaaS Instant Flow et comment ça marchait tout, ça m'intéresse pour trouver des clients. Parce que c'est la même niche, en fait. Ouais. On répond à un besoin, c'est des entrepreneurs digitaux principalement qui veulent trouver des clients. Et en fait, les deux niches, en fait, sont entre guillemets la même niche. Même si on a quand même beaucoup tapé dans la niche closer MLM au début. Donc, c'était pas vraiment la niche que l'audience que j'ai sur YouTube. Mais petit à petit, les niches se rapprochent, en fait.
Et moi, tu vois, je pourrais faire un peu le même système que tu fais parce que je connais hyper bien la niche des artisans français. Parce que pour ceux qui suivent un peu mon YouTube, etc., j'ai appelé des centaines d'artisans français parce qu'à un moment donné, j'ai voulu lancer une agence marketing qui vendait des sites internet et de la publicité Google justement aux petits artisans français, donc les électriciens, les plombiers, etc. Et à la suite de ça, donc j'ai créé mon propre SaaS aimant à client. Grosso modo, ils créent un site avec des centaines de pages optimisées pour le SEO qui va leur permettre d'avoir pas mal de nouveaux clients qui vont entrer justement avec du référencement naturel. Et ce que j'aimerais faire, en fait, c'est, en plus de SaaS-là, proposer des services. Donc, mon SaaS, c'est à peu près 39€ par mois, donc pour les artisans français. En plus de ça, leur proposer des upsells en mode, je te fais la publicité Google en format un peu agence. Et tout d'autre, je peux leur proposer plein d'autres services autour. Je pensais notamment à la publicité Google et à la publicité Facebook, et qui vont leur permettre d'avoir plus de clients. Et les deux vont s'auto-alimenter. C'est-à-dire que quand je vais avoir des clients, imaginons, je fais du cold call, donc de l'appel à froid sur des artisans pour leur proposer de la publicité Google ou Facebook. S'ils me font confiance pour la publicité Google ou Facebook et que j'ai des résultats avec eux, je vais pouvoir leur upsell le SaaS. Et inversement, s'ils arrivent par le SaaS, j'ai une chaîne YouTube, etc., pour promouvoir le SaaS, ils vont pouvoir potentiellement être intéressés s'ils ont des résultats par l'agence avec les publicités Google et Facebook. Et ça, je trouve que c'est un point hyper intéressant. Je connais une autre équipe qui s'appelle Figio qui fait pas mal de SaaS, qui fait aussi ça. Eux, ils se concentrent uniquement sur la niche des créateurs de SaaS. Mais typiquement, toi, tu te concentres uniquement sur une niche et tu construis plein de produits autour de ça, plein d'offres. Et c'est hyper intéressant parce que tu te concentres vraiment sur une niche, tu l'as en tête et tu sais exactement quels sont leurs différents points de douleur. Mais surtout, bah, tu peux leur upsell plein de trucs, en fait. Ça n'a pas de fin. Une fois que tu as des résultats sur un de tes produits, tu peux leur vendre 5 autres produits.
Ouais.
Je dis ça, j'appuie bien là-dessus, parce qu'il y en a, tu vois, ils vont faire... Il y en a, ils essayent de lancer plein de SaaS, ils vont faire un SaaS, ils vont faire du revenu, puis ils vont se dire, oh, ça y est, j'ai envie de faire autre chose, je vais partir sur un autre truc.
Je maîtrise, c'est bon, j'arrête, je vais faire autre chose. Mais en fait, je trouve ça pas très intelligent, ouais.
Enfin, ça, j'appelle ça un peu le TDAH de l'auto-entrepreneur, enfin de l'entrepreneur. C'est que t'as envie de switcher d'un objet brillant à l'autre, alors que des fois, il faut essayer de stick to it et de proposer d'autres trucs autour.
Ouais. Bah, c'est comme ça, en fait, c'est comme ça que tu vas le plus loin, hein, dans tous les secteurs. C'est-à-dire, si tu restes sur ton secteur et que tu continues d'apporter de la valeur sur de la valeur sur de la valeur, et de développer tes services, mais toujours sur la même niche ou sur le même principe, en fait, rester dans le même secteur, en fait, c'est ce qui va te faire croître vraiment sur le long terme. En fait, lancer que des, c'est comme, parce que la courbe, en vrai, de la réussite d'un projet, elle est pas linéaire, hein. Elle est vraiment, j'ai envie de dire, elle est exponentielle. Ça serait bien qu'elle soit vraiment exponentielle, mais le côté exponentiel, c'est vraiment que elle rase zéro pendant très longtemps, en fait, avant de décoller. Mmh. Et le jour où elle décolle, si à ce moment-là, où t'es à peine en train de décoller, tu relances un nouveau projet, tu vas repartir pour, je sais pas moi, 6 mois, 1 an, 2 ans, à faire du rase-mode jusqu'à ce que peut-être ça redécolle un jour. Et alors que si le jour où ça décolle, tu continues, tu vas profiter de cette phase exponentielle où là tu vas vraiment tout exploser, je pense.
Ouais, je suis totalement d'accord avec toi. Je te rejoins totalement là-dessus. Et en ce moment, tu sais, il y a un peu une mode des gens qui veulent lancer des SaaS, etc., des développeurs qui en ont marre d'être en CDI. Et la grosse erreur qu'ils font, c'est la première, c'est déjà ça, de sauter de SaaS en SaaS sans prêter assez d'attention ou investir assez de temps pour qu'il y ait une réussite, en fait. Et la deuxième, que j'ai totalement oublié.
Peut-être de ne pas avoir les outils marketing ou peut-être de ne pas se concentrer sur...
C'est
l'erreur que je vois.
Je l'ai oublié. Si je me rappelle, c'est pas grave, je vais la ressortir. Mais j'en profite pour rebondir sur un autre truc qui était intéressant que tu as dit tout à l'heure. C'est que, en fait, t'as eu des retours des gars qui ont pris ton du coup Go High Level dans un premier temps. Donc, t'avais les 200 personnes dans un groupe, les closers. Vous en avez eu 10. Et ces 10-là, en fait, vous avez pris leur retour. Et c'est ça qui t'a dit, en fait, je vais développer un stand flow vraiment hors du cadre Go High Level parce qu'ils ont ce besoin-là. Toi, t'es pas parti d'une idée up comme ça. C'est vraiment, t'as écouté, t'as sondé une niche. Ils t'ont dit, je veux ça, ça n'existe pas, boum, je pars.
Mais c'était quand même une erreur, en fait, ce qu'on a fait, je trouve, parce que on aurait pu faire mieux que ça. En fait, quand quelqu'un te dit oui, c'est bien, tu peux faire ça, ça peut marcher ou ça m'intéresse. Le truc, c'est que c'est des mots, en fait. Et les mots, ça veut rien dire. Ce qui veut dire quelque chose, c'est les actions. Et quand toi, t'as une idée pour être sûr, d'ailleurs, on a un Google Doc sur ça où on a vraiment toutes les validations pour lancer un projet, une idée, pour sonder l'audience, en fait. Pour sonder l'audience de la bonne manière, pas juste en lui disant ça te dirait un SaaS qui envoie des messages automatiques, ouais ça me dirait, mais ça te dirait, ça veut pas dire que tu vas payer 50 balles par mois pour l'utiliser. Ça veut dire si c'est gratuit, peut-être que j'utiliserai, tu vois. Ouais. C'est tout ce que ça veut dire.
Toi là, si tu devais relancer un SaaS, c'est quoi les techniques justement que tu mettrais en place pour t'assurer de bien sonder la niche et pas de te faire avoir par un gars qui dit oui vas-y, t'inquiète.
En fait, déjà contacter les bonnes personnes, donc c'est-à-dire si t'as une idée, essayer de contacter la niche pour qui c'est fait, pas n'importe qui, mais surtout de passer les entretiens, enfin si tu fais des entretiens ou que ce soit par message, mais en vrai il vaut mieux appeler les gens, c'est quand même plus intéressant. Si t'arrives à appeler une quarantaine de personnes, t'as tout gagné en vrai.
Totalement.
Et de passer dans un document, justement un document qu'on utilise maintenant dès qu'on a une idée, qui en fait va demander, donc t'as des questions de base pour vraiment comprendre la psychologie, etc. Est-ce que ça t'intéresserait? Quel est ton parcours? Qu'est-ce que tu fais? Quel est ton plus gros problème? Est-ce que tu serais prêt à payer pour ce problème? Combien je serais prêt à payer pour ce problème, etc., etc. Mais il y a certaines questions. Il faudrait que je te retrouve le doc et que je te les dicte directement. Mais en gros, les questions étaient faites. Par exemple, à la fin de l'entretien, tu vas poser une question au gars. Tu vas lui dire est-ce que tu connais quelqu'un qui aurait potentiellement un intérêt pour ce SaaS et me le référer. Si t'es vraiment intéressé et que t'es vraiment dans la niche, tu vas connaître quelqu'un. Si tu veux pas me le donner, c'est parce que tu penses que mon projet il a aucun intérêt. Donc, si tu refuses de me donner quelqu'un à la fin, tu sais que cette personne-là, elle est pas très qualifiée. Donc, tu peux pas vraiment tout prendre ce qu'elle a dit pour argent comptant.
Ouais, totalement.
Alors que s'il te réfère quelqu'un avec plaisir, il te dit, ouais, bien sûr, j'ai 3-4 potes, je peux te les envoyer avec plaisir. Là, tu peux dire, OK, d'accord, j'ai quelque chose. Tu vois, c'est des questions comme ça, en fait, qui sont posées dans ce document.
Ouais. Et du coup, ce document, t'as pu déjà le tester un petit peu?
Non, pas encore vraiment.
Non, okay.
On est à peine en train de le faire, en fait. Sachant que, c'est plus un truc vu qu'on l'a pas fait et qu'on notre projet maintenant il est sur des roulettes, on va dire que c'est un truc qu'on donne à nos élèves, Et c'est un truc qu'on implémente si on a des grosses idées, tu vois, qui ont rien à voir avec le projet. Donc on l'a fait avec deux trois gars, tu vois, et encore, je l'ai pas respecté à 100%. Mais ouais, si je devais recommencer, je l'utiliserais à 100%. Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on fait, plutôt que de faire ça, c'est directement la création d'un dashboard où il y a des idées qui sont soumises avec un système de vote et des commentaires. C'est beaucoup mieux quand tu as déjà une communauté que de te faire chier à faire des appels avec les gens, tu vois, alors qu'on a, on a une communauté, tu vois, on a des centaines de personnes à qui on peut sonder, on va pas les appeler un par un. À part si c'est du produit à 1000-2000 balles.
Ouais, totalement. Je suis totalement d'accord avec toi. Et moi, les méthodes que j'utilise la plupart du temps, ça peut être soit une landing page juste avec une waiting list, c'est-à-dire un endroit où ils peuvent rentrer leurs emails. S'ils veulent vraiment rentrer leurs emails pour être au courant, c'est qu'il y a de l'intérêt. Et pour vraiment valider à 200% l'idée, ce qui est le mieux, c'est de faire voilà, une pré-vente avec vraiment un accès lifetime. Imaginons, normalement, le service, ça va être par abonnement. Là, tu dis, bon, voilà, si t'es vraiment déter, le produit n'est pas encore là, tu n'y as pas encore accès, mais tu as un accès lifetime pour un prix vraiment réduit. Et si tu as des gens qui seront intéressés, ils vont laisser leur carte. Alors attention, il faut quand même mettre une garantie. Par exemple, si voilà, le produit ne sort pas ou que tu n'es pas satisfait, on te rembourse dans tous les cas.
Ouais, vaut mieux. Ouais.
Mais au moins, ça permet que si les gars sont prêts à sortir la carte, c'est vraiment ça la validation en fait. À partir du moment où il y a des gens qui sont prêts à payer, c'est sûr que l'idée, tu peux la lancer. Après, ça calcule aussi s'il y en a une, tu vois, avec ses 10 euros, peut-être qu'il faut quand même y réfléchir à deux
lifetime
fois.
Lifetime 10 balles, je pense que là, c'est compliqué, mais les lifetime, en général, ils sont à quoi? Ils sont à 40 euros, 40-50 balles, on va dire. Sur AppSumo, je crois, c'est entre 30 et 50 balles, les lifetime, en général, des projets qui sortent.
Ouais, ça peut vraiment varier en fonction après de l'offre, mais ça peut tourner, en moyenne, ça tourne autour de ça, ouais.
Ok. C'est bien les préventes, effectivement, c'est un moyen, c'est le meilleur moyen. Après, le truc, c'est que tout le monde va pas forcément le faire et c'est quand même réunir quelques personnes. Mais ouais, clairement. Déjà, inscription email, forcément, tu valides un petit peu. Pré-vente, oui, là, tu as validé complètement ton serveur.
Le mieux, en plus, c'est que ça te donne du coup des leads que tu pourras contacter dès la sortie ou potentiellement, si tu as vendu même avec la carte, des personnes qui vont te faire des retours dès que le produit va sortir. Ils ont payé, donc ils vont être réinvestis. Tu vois, ils vont vraiment avoir envie de t'aider à améliorer. Ils n'ont pas envie de payer pour qu'il n'y ait rien derrière. Donc, ça, c'est hyper important. Ça va permettre de prendre des retours et pas de créer le produit à partir de ton imaginaire qui souvent peut se tromper.
Exact. Avoir cette communauté de personnes enthousiastes, c'est de l'or au début du. En fait, c'est ce qu'on veut faire quand on lance un SaaS pour moi. Le premier truc à faire, c'est créer un groupe et avoir un groupe vraiment de personnes enthousiasmées par ton projet qui donnent du feedback, qui te disent OK, tu vas dans la bonne direction, qui soumettent des idées, qui sont là dans tes lives quand tu vas faire le lancement. Le premier objectif, c'est ça, c'est de se créer ce petit groupe de personnes qui attendent le projet.
C'est ce qu'ils avaient fait les fondateurs de Somme Magique, qui est un SaaS qui a vraiment explosé dernièrement. Je sais pas si tu connais, tu sais, qui permet de faire les captions. Ils avaient créé un groupe WhatsApp de 100 personnes, genre les 100 premiers utilisateurs. Ils les avaient mis dans un groupe WhatsApp et ils discutaient à fond tous les jours avec eux pour avoir un maximum de retours. Et en fait, les gens, ils étaient hyper contents de participer, tu vois, à la création d'un SaaS. Ils étaient en mode, ça m'est jamais arrivé. Ils sont contents de donner des retours. On pourrait croire que non, tu vois, ça pourrait être une croyance qu'on ait, on va dire non, les gens, ils ont autre chose à faire, etc. En fait, les gens, ils sont hyper contents de t'aider, de donner des retours s'ils kiffent le produit, tu vois.
C'est clair. C'est véridique, en fait. On a toujours cette barrière de se dire on va faire chier tout le monde. Mais en fait, si ton projet, il a vraiment de l'intérêt et qu'il veut vraiment. Le but, c'est vraiment. Le but, si c'est juste pas de faire 100 000 balles, tu vois, si c'est vraiment d'aider d'abord une communauté à atteindre un objectif ou à résoudre un problème, si t'es vraiment focalisé sur ça, et qu'ils le ressentent, normalement, la passion, ça se transmet, honnêtement.
Totalement. Et dernier truc à ce sujet, moi, j'ai une idée en ce moment donné, et je partage un peu ma stratégie. C'est autour de Le Bon Coin, et en gros, il y a deux personnes qui sont, entre guillemets, les plus connues sur Le Bon Coin sur Internet. Je les contacte pour leur dire, avoir un appel directement avec eux. Il faut un appel, c'est beaucoup mieux que des messages, souvent. Ça permet vraiment de créer un lien et par la suite, pourquoi pas que la personne soit beaucoup plus enclin à t'aider sur le projet ou à te donner des retours. Et l'idée, c'est que je les contacte, je leur dis « Ok, est-ce que t'es chaud qu'on fasse une collaboration là-dessus » On crée une landing page et eux, justement, qui ont toute la communauté, toute la niche en main, tu vois, dans leurs mains, ils vont envoyer les gens sur la landing page. Si ça convertit en vente ou en adresse email à partir d'un certain montant, c'est que l'idée est validée. Si ça marche pas, on arrête l'idée. Et ça, c'est hyper cool parce que moi, j'investis zéro temps. Je contacte des mecs qui sont un peu populaires dans leur domaine et qui ont déjà des niches. On teste l'idée. Si ça marche bien, je fais une collaboration avec eux, on crée le SaaS. Si ça marche pas, on laisse tomber, je passe sur une autre niche. Et ça, c'est un truc qui me permet de tester des niches hyper rapidement. Bon, j'en parlerai un peu plus tard, mais
c'est pas mal, ouais. Comme idée. Après, il y a un truc aussi, c'est que quand t'as un, quand tu as un product market fit, c'est un peu comme en e-com. Alors, je sais pas s'il y a beaucoup de gens qui font du e-com qui vont voir cette vidéo, mais dans le e-commerce à l'époque, quand tu faisais du Facebook Ads, il y avait un truc, c'est que les gens, ils disaient… Enfin, sur Facebook Ads, c'était simple. C'est soit tu avais un produit winner, soit il n'était pas winner en vrai.
Donc, ça sautait aux yeux, quoi. C'était évident.
Voilà, c'est en fait, c'est l'évidence en fait. C'est le truc que les gens, ils voient pas forcément. C'est que quand tu lançais un produit qui marchait, c'était évident que tu étais rentable. Tu avais un bon ROS, le taux de clic, il était gros, le site, il convertissait. Enfin, tu sens que c'était pas forcément toute ta stratégie qui était parfaite ou c'était le marketing qui était incroyable. C'est que le produit, en fait, en lui-même, il se vendait bien parce que tu l'avais montré à la bonne audience de la bonne manière. En fait, c'est tout. Et quand tu lances un SaaS, je pense que si vraiment tu as un produit market fit ou si vraiment tu tapes dans le mille, tu le sauras. Par contre, si tu ne tapes pas dans le mille, ça va être très dur à savoir. C'est ça le truc en fait.
Ouais, ça je te rejoins totalement. Pour ceux qui nous suivent, donc le product market fit, c'est un peu ce moment waouh quand le produit il se vend tout seul sans que tu aies besoin forcément de faire quelque chose et que tu es en mode waouh, ça marche trop bien, qu'est-ce qui se passe? Donc c'est en fait quand tu mets le bon produit en face des bons clients pour le bon prix, quoi, grosso modo.
Ouais.
Et donc ouais, en fait c'est un truc que tu remarques forcément parce que les clients ils vont venir, ils vont te demander le produit, ils vont le recommander. Là où quand ton SaaS t'as galéré à avoir un client, souvent c'est que c'est quand même mauvais signe, quoi.
Ouais, c'est ça. Après le truc c'est que ça joue à pas grand chose en fait. Ça qu'il faut comprendre, c'est que c'est pas forcément tout ton projet qui est acheté à l'eau. C'est potentiellement l'angle sous lequel tu approches les choses, la communauté que tu vas voir en fait. Y a plein de facteurs en vrai. Mais la communauté, elle est trop importante. Tu vas le présenter aux mauvaises personnes, en fait, elles vont pas comprendre la valeur de ton truc alors qu'il a potentiellement une valeur énorme aux yeux d'une autre audience, en fait.
Et justement, toi, du coup, au début, tu t'étais, entre guillemets, trompé de niche avec Instant Flow. Comment vous avez fait pour revenir sur les rails du succès et que ça marche mieux, quoi, par la suite?
Mais en fait, trompé de niche, pas vraiment, plutôt trompé de service à vendre à cette niche, en fait, puisqu'on a commencé avec GoLevel pour valider un service qui était complètement différent, enfin un produit qui était complètement différent. Ouais. Instant Flow qui va chercher de la prospection, c'est pas pareil que GoLevel qui automatise des tâches dans ta prospection.
Ok, donc en fait toi, vous avez pas changé de niche, vous avez juste changé de service à leur donner. Vous êtes quand même parti de cette même niche, quoi.
Bah on s'est dit ok, les closers c'est bien, s'ils ont quand même un besoin. On savait qu'ils avaient un besoin au niveau. En fait, ce qu'ils voulaient c'était appuyer sur un bouton et que ça envoie du message. On s'est dit mais on peut le faire en fait. On peut le faire, c'est l'idée que j'avais de base. C'est juste que GoLevel n'a pas vraiment validé mon idée. Et c'est OK, en fait, parce que c'est pas la même chose. C'est pas le même service. Et on peut facilement, quand on a la tête dans le guidon, quand on a vraiment le nez dedans, on va pas forcément se rendre compte de choses évidentes. Donc, on était quand même là à se dire, est-ce qu'on doit le faire, est-ce qu'on doit pas le faire? Au final, en septembre, on a recruté le dev, on a payé ce qu'il fallait payer, on a commencé le MVP. En janvier, il était prêt.
Ouais.
Fin janvier, vraiment, on a commencé à commercialiser.
Donc, le MVP, il a été prêt en combien de temps?
On a embauché le dev en septembre. Je sais plus à quel moment de septembre. Je crois que c'était début septembre.
Okay.
Et le MVP était vraiment prêt en mode à être commercialisé en fin janvier.
Ok, donc à peu près 3-4 mois, quoi.
Ouais, c'est ça.
Ok.
Avec un budget minimum, avec tout ce qu'il fallait. Enfin, en essayant de respecter le principe vraiment du MVP à fond, quoi.
Et pour la construction, comment vous avez fait? Vous avez pris des retours en même temps de construire le projet? Ou est-ce que en fait vous avez fait tout avant, je sais pas, par exemple sur un Figma ou même au crayon, vous avez dessiné, vous avez demandé aux gens des retours et après vous avez tout donné au dev?
En fait non, on n'a pas vraiment fait comme ça. Mais en fait c'est très simple ce qu'il fallait faire, c'était scraper des followers et leur envoyer des messages. Donc il fallait un champ quelque part où t'entrais le compte Insta que tu voulais scraper, un endroit où tu devais rédiger tes messages, et un endroit où tu cliquais sur start et que t'envoyais directement tes messages tous les jours.
Donc le MVP, c'était
messages et tout, quoi.
Le MVP c'était vraiment ça, quoi. Vous n'êtes pas éparpillé. Ouais. Vous êtes dit on développe cette main fonctionnalité et on commence avec ça.
Bah c'était cibler les followers. La promesse était va scraper les followers de tes concurrents pour les ramener dans ton service, quoi.
Ouais. Ok.
C'est vraiment la promesse du truc.
Donc là le MVP est prêt. On est à peu près en janvier. Ouais. Donc pour l'instant vous avez encore personne dessus. Comment vous y prenez pour acquérir les premiers clients, pour quel canal vous avez utilisé, etc.
Facebook. Facebook à fond.
Ok. Donc à ce moment-là, est-ce que t'as ta personal brand déjà qui a un petit peu commencé ou pas encore?
Non, toujours pas.
Ok.
En fait, j'ai commencé YouTube en faisant des shorts.
Ok.
Je crois que j'avais peut-être commencé les shorts à ce moment-là. Ok. Mais j'avais pas fait vraiment de contenu long et tout.
Ouais. Donc c'est pas ça de toute façon qui t'a aidé.
Ah non, ça servait à rien ça. Okay. Ça c'était vraiment pour chauffer un peu la chaîne ou pour peut-être lancer un truc, mais je savais que je voulais me lancer sur YouTube et partager un peu ce que je faisais.
Ouais.
Je savais pas de quelle manière, je savais pas qu'est-ce que je devais aborder réellement et tout. Mais voilà, je savais que je voulais me lancer, donc en même temps, j'avais commencé un peu à préparer la chaîne. Okay. Mais là, du coup, de septembre à, enfin, septembre, on commence à embaucher les devs, etc. On ouais. commence à bosser. On bosse vraiment main dans la main avec les devs, on leur fait du feedback, on teste le truc à chaque fois en direct. D'ailleurs, la première fois que je l'ai testé, mon compte a sauté direct. C'est passé un truc, le bot a fait un, genre 1000 actions en une seconde.
Ah ouais.
Et mon compte a sauté tout de suite, du coup.
Ton vrai compte?
Ouais, c'était mon compte perso. J'ai récupéré.
Ok, ça va, ok.
Mais il a sauté direct, banni 180 jours, je sais pas quoi, il faut faire appel si vous voulez. Bref, bon, j'ai fait appel, j'ai réussi, mais.
Ça allait attraper les développeurs, bon, les gars, qu'est-ce que vous avez fait?
Ah ben là, j'ai envoyé ça, j'ai dit, gros, il s'est passé un truc bizarre avec ton. T'es sûr que t'as fait du bon boulot? Mais bon, l'interface était bien, tu vois, ça ressemblait à quelque chose, j'étais juste en mode. Franchement, psychologiquement, c'était pas simple, hein, parce qu'on s'est embarqué dans un projet. Tu batailles un peu avec Insta, mais bon. Tout ça pour dire qu'en gros, tout ce qu'on a fait à ce moment-là, c'était créer un groupe Facebook et contacter des gens qui étaient dans le closing MLM.
Okay.
Et on a eu de la chance parce qu'à ce moment-là, il y avait un bot Facebook sur la France, un mec qui avait fait un bot Facebook et on a scrappé tout son groupe. Donc, il devait avoir, je sais plus moi, 500 personnes dans son groupe. On a envoyé des messages à tout le monde. Tous les gens de son groupe, on a essayé de les ramener dans notre groupe en disant, bah voilà, t'es sur Facebook, c'est très bien. Parce que tu savais que bah, nous, on allait faire un bot Insta. Et les gens, ils disaient, ah ouais, Insta et tout. Enfin, ils étaient intrigués, quoi. Et ils disaient, si t'es le premier à lancer ça, bah, ça veut dire qu'il va y avoir un marché à prendre. Et dans le MLM, ils aiment bien les opportunités du style, bah voilà, nouveau marché, nouvelle opportunité. Ouais. Ils ont le syndrome de l'objet brillant à fond.
Ouais.
C'est vraiment des personnes qui vont sauter de projet en projet tous les mois sans aucun problème.
Ouais.
Et du coup, bah là, ils ont sauté dans notre bateau, quoi.
Donc ouais, le MVP est prêt. Vous allez du coup directement sur Facebook, vous scrapez bah, des utilisateurs et vous leur envoyez un message en mode bah, « Go, viens sur essayer notre produit sur Insta ouais. ». La stratégie, c'était quoi? Est-ce qu'il y avait un free trial à ce moment-là? Est-ce que c'était directement payant?
Bah, en fait, les premiers, on leur a promis 9 balles par mois.
Ok.
Donc, s'ils s'inscrivaient avant, etc., c'était 9 balles par mois pour eux.
Ok. Il n'y a pas d'engagement à ce moment-là?
Ah, il n'y a aucun engagement, rien du tout. On a jamais, même aujourd'hui, il n'y a pas d'engagement. Et il y a un truc que j'ai pas dit aussi, c'est qu'on a utilisé un bot Facebook pour envoyer des messages, du coup, sur Facebook. Un bot Facebook utilisé, justement, un pote qui m'avait fait découvrir Go High Level aussi, enfin, qui était sur Go High Level, que j'ai rencontré très tôt. Dès que j'ai découvert Go High Level, j'ai rencontré très vite. Et lui, il utilisait un bot Facebook, en fait. Et c'est aussi ça qui m'a donné l'idée d'envoyer le bot Insta, de démarrer un bot Insta.
Ok. Donc, ouais, anecdote marrante, du coup, vous êtes servi d'un bot Facebook pour attirer des gens sur votre bot Insta.
Voilà, c'est ça.
Niveau résultat, donc vous contactez, tu as dit, donc il y avait 500 personnes sur un groupe. En tout, vous contactez à peu près combien de personnes et quel résultat vous avez à peu près en combien de temps?
On a dû contacter, parce qu'on n'a pas fait que ce groupe-là dont je t'ai parlé. Ouais. Hein, ça, c'était vraiment le groupe qui nous a ramené le plus de personnes.
Ouais.
On a dû contacter, je sais pas moi, plus de 1000-2000, je pense.
Ok. Et sur ces 1000 ou 2000, ça vous fait à peu près combien de clients là?
Actuellement?
Au tout début, non. Au tout début. Genre ça vous a pris combien de clients?
Au tout début, on en a eu 10 en bêta testing direct, qui ont pris l'offre à 9 euros.
Okay.
Et ensuite, en fait, parce qu'en fait, ils voulaient tester le produit, ils étaient très, très,
frileux.
Ouais, frileux, ouais. Très, très frileux. Ils disaient, attends, est-ce que ça marche ton truc et tout? Enfin, ils y croyaient pas trop, en fait.
Bah, t'avais pas encore de social proof à ce moment-là.
Bah, aucune, mais
le projet venait de se lancer. Ouais. Donc, il fallait un peu faire ses preuves, ouais.
Ouais. Donc là, en fait, on a réussi à ramener beaucoup de monde dans notre groupe Facebook. Mmh. Beaucoup de personnes qui nous disaient, ouais, c'est cool et tout. Mais on a fait aussi l'erreur, tu vois, de pas engager les gens avec, des appels. Comme je t'ai expliqué juste avant, tu vois, des questions pour être sûr et tout.
Ouais.
On se contentait d'un oui, c'est cool. Et on était là, ah, c'est bon, c'est l'idée du siècle. Mais on a quand même eu cette traction et cette part de chance, qui a fait que, bah, les gens, ils étaient quand même intéressés. Et vu qu'on a tapé dans le milieu du MLM, en fait, le truc sur lequel je comptais le plus, c'était la viralité. Parce que dans le MLM, les gens, alors je sais pas si les gens qui regardent ces vidéos connaissent le MLM, mais en gros c'est du marketing de réseau. Et donc bah voilà, c'est des Tupperware, c'est un MLM par exemple. Herbalife, vous avez tous entendu parler, je pense, c'est un MLM. Donc voilà, bah là c'était des gens qui venaient de ce milieu-là et tout le monde se connaît dans le MLM.
Ouais, c'est ça.
Et ils sont très très bons vendeurs. C'est-à-dire qu'ils te lâchent pas.
Est-ce qu'au début, parce que du coup comme tu l'as dit, c'est un truc un peu de réseau. Dès le début, vous avez mis en place une stratégie d'affiliation ou c'est venu un peu plus tard?
Ouais, direct. Ah, ça, on l'a préparé dès le début. On leur a dit le pourcentage, c'est ça. Vous allez gagner tant si vous vendez un abonnement. On a fait sur 3 niveaux d'affiliation. Normalement, l'affiliation, en général, sur un logiciel, on va mettre un niveau, voire peut-être deux. Nous, on a voulu en mettre 3 du coup avec le logiciel qui nous permettait de faire ça. Ouais. Parce qu'on utilisait un logiciel externe pour le faire. Mmh. Et du coup, bah, ce fait-là, qu'il y avait trois niveaux, que la fille, on était quand même généreux, on donnait genre 45% à ce moment-là. Mmh. Donc, tout ça faisait que finalement, il se disait, OK, d'accord, je peux avoir des gens sous moi, qui, enfin bref, je peux construire mes équipes, etc., etc. On l'a vraiment fait pour eux, en fait.
Quand tu dis trois niveaux, pour ceux qui nous écoutent, c'est genre, t'as un gars qui ramène quelqu'un d'autre affilié, et cet affilié-là peut ramener aussi d'autres personnes, et ça va ramener de l'argent au tout premier.
Tout à la chaîne, ouais, à la chaîne complète des trois niveaux.
Ok, donc c'est hyper intéressant, en fait, justement, ça booste, ça motive encore plus, et étant donné qu'ils se connaissent tous, et que normalement, c'est des vendeurs, ils vont aller pitcher un peu le projet, j'imagine, à l'autre, qui va lui-même le pitcher, et ça peut vite partir en chaîne.
Bah après, c'est pas un système, parce qu'il y a beaucoup de gens qui vont penser à un système pyramidal et tout, ça reste de l'affiliation. Il n'y a pas de système pyramidal ou quoi, c'est juste de l'affiliation, on donne des commissions sur des ventes.
Ouais.
C'est juste que les commissions sont sur plusieurs niveaux. Alors qu'un MLM, de base, il va faire des systèmes, je crois il y a unilatéral ou bilatéral, je sais plus ce que c'est exactement le nom, mais en gros, c'est niveau infini en MLM.
Oui, oui. Là, il y a une limite donc à trois niveaux.
Là, il y avait une limite de trois niveaux sur l'affiliation et il n'y avait pas de conditions ou de branches, etc. Enfin bref, c'est pas des trucs un peu douteux.
Ouais.
Mais ça les motivait quand même à démarrer.
Et alors, parce que vous êtes allé sur Facebook, donc vous n'avez pas forcément testé d'autres canaux au début. Qu'est-ce qui vous a fait justement que vous avez fait le choix d'aller sur Facebook ?
Bah, les groupes Facebook, honnêtement. Ce qu'on maîtrisait, en fait.
Ouais.
En fait, on est allé vers ce qu'on maîtrisait.
Ok.
On aurait pu aller sur LinkedIn aussi, hein, mais le truc, c'est que moi, je maîtrise pas LinkedIn, mon associé, pas beaucoup non plus. Donc, on n'a pas forcément choisi d'aller sur LinkedIn.
Ouais, parce que donc vous aviez déjà une bonne base quand même en marketing, etc. Il y avait déjà plusieurs projets qui étaient partis avant niveau entrepreneuriat. Donc, moi, c'est beaucoup des devs qui me suivent, mais donc toi, niveau dev, zéro. Par contre, niveau marketing, tu avais quand même des bonnes bases.
Ouais.
Ce qui t'a permis d'aller faire quelque chose que tu connaissais déjà, aller sur les groupes Facebook et essayer justement de scraper les gens, leur vendre directement ton produit, leur proposer.
Ouais.
Et c'est comme ça que vous avez eu les premiers users, quoi, en fait. Ceux avec quoi vous étiez le plus fort.
Ouais, c'est exactement ça. C'était quand même beaucoup de travail parce qu'il y avait du follow-up à faire avec les prospects, tu vois. Parce que le bot qu'on utilisait sur Facebook, il permet de mettre tous tes contacts dans un CRM. Du coup, tu sais où t'en es, tu sais, ceux qui ont rejoint le groupe, ceux qui n'ont pas rejoint, ceux que tu vas relancer, etc. Donc, on a fait quand même un bon taf là-dessus. Et surtout, on a vite identifié les gros leaders, en fait. Mmh. Parce que dans le MLM, il y a des leaders qui ont une communauté, qui ont une audience, etc. Enfin, c'est eux qu'on a vraiment le plus mis, on a concentré nos efforts sur ces personnes-là.
En fait, vous êtes allé contacter des espèces de micro-influenceurs du MLM en leur disant, voilà, on fait ça, tatati. Et comment vous avez réussi à les convaincre de partager le projet? Tout simplement parce qu'ils étaient, ils étaient en mode, ouais, c'est grave utile, let's go, je partage.
En fait, c'est juste le fait d'être les premiers. En fait, c'est vraiment ça qui les motivait. On a compris ce qui les motivait, c'était juste, je veux arriver avant les autres pour que, moi, quand je suis positionné, c'est ça un MLM, c'est je veux être positionné, comme ça tout le monde arrive après moi et du coup, moi j'ai tout le monde sous moi, quoi, en fait, dans mes niveaux en dessous.
Ouais, donc c'est ça, c'est un peu une stratégie marketing. Vous avez joué sur les désirs un peu subconscients.
Ouais, c'est un peu ça. On peut dire qu'on avait compris un peu ce qui allait actionner l'envie de démarrer avec nous, quoi. Parce on n'a pas donné des commissions particulières, tu vois.
Ouais. Pour les développeurs, des fois, tu vois, on aura tendance à être trop logique, trop pragmatique et à dire, regarde, mon SaaS, il va faire ça, ça, ça. Et le mec, c'est pas vraiment ce qui va le motiver. Alors que là, vous allez jouer un peu sur la corde sensible en disant, mec, tu l'as susurré à l'oreille, vous allez être le premier.
Let's go. Mais il y en a, ils s'en foutaient du projet. C'est ça le pire, en fait. C'est que, en fait, le seul truc, c'était, c'est nouveau, je veux être le premier. C'est un SaaS Insta qui fait des fonctionnalités qui sont intéressantes. Rien à foutre. C'est vraiment, c'est nouveau, je veux être le premier, et c'est un projet qui a du potentiel. Et ces trois choses-là font que les gens, ils étaient là, ah ouais, ok, d'accord, il y a un truc à faire. Et vu que le gars du bot Insta, là, il était déjà arrivé sur le marché, il avait quand même bien mis dans le crâne des gens que, c'était ce genre de bot, c'était hyper utile, c'était hyper puissant, les gens allaient en avoir besoin, ça répondait à un vrai problème, donc tout le monde allait l'acheter. C'est du revenu récurrent, c'est un abonnement. Ça, ils l'ont pas oublié en MLM. Ils comprenaient bien que c'était pas un revenu, tu vends un produit une fois et c'est terminé.
Donc là, vous avez fait un truc donc au début qui est hyper intéressant, c'est que vous êtes allé contacter des gens qui étaient déjà éduqués, c'est-à-dire qui connaissaient déjà l'avantage d'avoir un bot.
Ouais.
Vous êtes allé vraiment chercher ceux qui étaient déjà presque prêts à payer pour le genre de service, et vous avez eu la belle opportunité de scraper directement tout un groupe, de ramener tous ces potentiels clients qu'il avait sur votre service.
Ouais.
Donc vous jouez un petit peu sur la corde sensible, etc. Donc là, à peu près, on continue cette stratégie pendant combien de temps?
Alors, on était janvier, fin janvier. On a mis, je crois, jusqu'à mai pour atteindre les 10K par mois.
Avec okay, mais toujours projet. Avec cette stratégie de
que
Facebook.
Cette strat pour l'instant.
Ok.
Que cette strat, prendre le feedback, améliorer le produit, prendre le feedback, améliorer le produit, je vais y arriver.
Ouais.
Et en fait, on s'est rendu compte que les gens n'étaient pas si enthousiasmés que ça par le projet à un moment donné.
Okay.
Et en fait, le bot en lui-même, enfin l'outil en lui-même, c'était pas forcément la niche, n'était pas forcément la niche parfaite.
Mmh.
En fait, tu vois, on s'en est rendu compte.
Quel KPI vous a fait rendre compte de ça?
Genre,
est-ce qu'il y avait beaucoup de churn? Ouais, beaucoup de churn.
Énorme ici, mais il était à, je crois, 22% notre churn.
Ok, ouais, ok.
C'est énorme
ouais.
dans les SaaS. Tu peux pas vraiment faire plus que ça, je pense. Et
ouais.
Du coup,
pour ceux qui regardent, donc, plus on a un churn qui est énorme, plus il va falloir attirer beaucoup de clients, sauf que l'acquisition de nouveaux clients coûte de l'argent. Donc, si on veut être rentable, normalement, il faut essayer, avant de vraiment scaler à grande échelle, de réduire le churn, quoi.
De réduire les trous dans ta passoire et pas faire en sorte que ton produit, ça soit une passoire où tous les clients, ils se déversent à chaque fois et ils disparaissent.
C'est ça, ouais.
Donc, le but, c'est de fixer la passoire avant de commencer à faire une stratégie d'acquisition. Parce que si les gens restent pas, ça sert à rien.
Ouais, parce qu'en fait, une fois qu'ils seront partis, après, ils ont plus confiance au produit. Donc, si tu attires tout le marché d'un coup et que après, t'améliores ton produit, mais que tout le marché est déjà parti et qu'ils savent que t'es pas bon,
pas
tu crées une mauvaise un peu image, quoi, je dirais.
C'est pas ouf, ouais. Après, il y a des gens qui partaient aussi, pas forcément parce que le produit était mauvais, mais juste parce que, tu vois, en fait, c'était du MLM.
Mmh.
Donc, t'avais des gens qui, enfin, faut comprendre que les gens te le vendaient comme le Graal, quoi, le truc.
Mmh.
Et donc, il y avait des gens qui arrivaient, ils disaient, OK, c'est un bot Insta, il est très bien, mais tu m'as vendu que j'allais faire, je sais pas combien avec, tu vois, alors que c'est juste un bot Insta et j'ai pas les résultats que j'espérais.
Ouais.
Parce que, ils le vendaient tellement de manière agressive que voilà, il y avait des gens qui arrivaient, ils savaient pas trop pourquoi ils étaient là. Donc, il y avait un peu ça, c'était un peu le piège dans lequel on est tombé avec cette niche. Mais je regrette pas parce que ça nous a quand même permis de nous autofinancer rapidement.
Ouais. Totalement. Et d'ailleurs, c'est un peu aussi cette stratégie d'affiliation qui a dû bien marcher. Mais comme les gens venaient parce que c'était l'effet de nouveauté et parce qu'il y avait eu de l'affiliation, ils avaient été convaincus par quelqu'un d'autre, le side effect, entre guillemets, de ça, c'est que du coup, il y avait un churn assez élevé. Mais bon,
ouais.
C'est aussi ce qui vous a permis d'avoir énormément de clients dès le début. Donc, toi, tu regrettes pas forcément, quoi.
En fait, la stratégie, il faut l'accepter comme elle est là. Hein. C'est-à-dire qu'elle ramène beaucoup de monde d'un coup, mais tu vas perdre beaucoup de monde aussi. Donc, faut prendre ce qu'il y a à prendre, je pense, et améliorer sur le tas. Et
ouais.
Sur le temps, on s'est rendu compte que potentiellement, les gens qui restaient, c'était plus des agences digitales, en fait, des entrepreneurs, mais ils savaient ce qu'ils faisaient, tu vois. Pas juste un gars qui se dit, ah tiens, un bot, je vais devenir riche parce que ça va envoyer des messages pour moi.
Et quand
je vais plus pouvoir.
C'est marrant, ça. Comment vous avez fait justement pour vous rendre compte que la plupart des clients qui restaient, quel outil vous avez utilisé? Comment vous avez eu les données justement pour prendre cette décision qui,
En fait,
vous...
c'était vraiment de l'analyse bête et méchante. Hein.
Ouais.
On a discuté avec des gens, le SAV, tu vois, les gens dans le groupe. On a un groupe aussi où les gens ils parlent.
Ok. Un groupe Discord, WhatsApp.
Un groupe Telegram.
Ok.
On va sûrement supprimer honnêtement parce que bon, avoir un groupe où tu mets tes clients, c'est pas toujours la meilleure idée. C'est un peu le bureau des plaintes des fois, tu vois, pour certains. Plutôt que de venir en email, ils viennent dans le groupe devant tout le monde, tu vois, se plaindre et ça, c'est pas forcément incroyable.
Ouais.
Donc, ça va, le produit marche bien, donc il n'y a pas trop de plaintes, mais des fois, c'est vrai que voilà, c'est pas ouf. Moi, je recommande pas de faire ça en vrai.
Okay.
C'était quoi la question première? C'était, ah oui, comment on s'est rendu compte, qu'est-ce que c'était notre client qui restait plus longtemps?
C'est ça, donc en fait, vous avez attiré dans un premier temps une première niche, on va dire, puis vous êtes rendu compte que c'était pas celle qui restait le plus. Et donc, il y a eu cette prise de conscience à un moment donné qui a été amenée, donc, comme tu l'as dit, par les contacts directement, en fait, de manière assez naturelle avec le support et puis dans le groupe Telegram que vous avez. Donc, bon, il a sans doute ses défauts, mais il t'a aussi permis du coup d'avoir pas mal de feedback, je pense, sur Telegram,
etc. Ouais, ça, clairement.
Donc au début, ça peut être pas mal. Après, c'est vrai que si trop de personnes font des retours négatifs aux yeux de tout le monde, ça peut donner une mauvaise image assez rapidement. C'est ça qui peut être chiant, quoi.
Ouais, c'est clair. Moi, dès qu'il y avait un gars qui avait un bug ou qui avait pas fait l'installation correctement, il allait se plaindre sur le groupe. Il y avait d'autres gens du coup qui étaient réticents. Ils venaient me voir, ils me disaient, mais t'es sûr qu'il marche bien l'outil, parce que je viens d'arriver, etc. Juste parce qu'il y avait un gars qui savait pas l'installer et qui venait direct se plaindre, quoi. Alors que c'était la faute du gars, tu vois, parce qu'il avait mal installé et que du coup ça pouvait pas bien marcher.
Ouais, je comprends totalement. Donc là vous faites un switch de direction, vous passez du coup plutôt sur les agences, c'est ça?
Notre vraie niche en vrai c'est plus les agences SMMA. C'est vraiment
okay.
Elles qui prospectent sur Insta.
Okay.
Elles font de la prospection Insta, elles font de la prospection email aussi, prospection téléphonique. Mais il y a un gros marché d'agences SMMA, tu as juste à taper sur YouTube cold DM, Call DM Instagram ou Call DM Marketing ou un truc comme ça, tu vas avoir des tonnes et des tonnes de vidéos sur le Call DM. Donc, tu vois qu'il y a un marché. Tu vois que tout le temps, les mecs qui font des vidéos, c'est des jeunes qui ont des agences, tu vois, qui font du business en ligne et qui cherchent des clients, quoi.
C'est hyper intéressant parce que je me rends compte, du coup, tu vises vraiment les agences SMMA. Et avec mon SaaS, c'est mon client. Alors moi, je m'occupe plus de la partie marketing, mais mon associé qui travaille dessus, Noam, là, il a pour objectif d'essayer d'attirer les gars qui font des agences SMMA, en fait, dessus.
Okay.
Alors notre nouvelle cible, c'est justement les agences SMMA qui, elles, vont revendre, en fait, aux artisans directement. Et donc là, lui, il va essayer de scraper des agences SMMA, etc., pour leur revendre le tool. Est-ce que t'as des bons tips, des bons tuyaux à me donner pour scraper justement cette agence-là au bon endroit, au bon résultat?
En fait, ils sont beaucoup sur Insta déjà et Facebook. C'est-à-dire que c'est des réseaux sociaux qu'ils affectionnent vraiment beaucoup.
Okay.
Il y a des stratégies automatisation. En fait, tous les outils, bot Facebook, bot Insta à la base, c'est vraiment eux la niche qu'ils utilisent.
Okay.
Parce que c'est des jeunes, ceux qui ont des agences SMMA. Tu vas pas beaucoup rencontrer de personnes qui ont 50 ans et qui vont faire du Facebook Ads ou enfin, il y en a en vrai, mais c'est pas la même. Il y a une vague chez les jeunes en vrai. Il y a beaucoup plus de freelance qu'avant. Il y a beaucoup plus de jeunes qui voient des vidéos sur Internet. De gros créateurs qui font de l'argent avec du business avec des business en ligne. Et ils veulent faire la même chose. Et le moyen le plus rapide en général, c'est de monter une agence. Monter une agence en ligne, quoi. Et en général, c'est de la publicité. Même si tu fais du site web, même si tu fais du community management, que tu as une agence là-dessus. Toutes les personnes qui ont pas vocation d'être freelance, mais vraiment agence, une agence avec des processus, etc. Ils sont beaucoup sur Facebook et Insta, et ils sont beaucoup dans des groupes. Tu vois, t'as deux méthodes en fait. T'as les groupes des gourous.
Ouais.
Donc en gros, tu cherches un gourou sur YouTube.
Ouais.
Il a un groupe Facebook à tous les coups ou un school maintenant.
Ouais.
Et tu peux scraper directement dans son groupe ou son school, parce que sur school, tu peux envoyer des messages aux gens. Tu rejoins un school.
Okay.
Ça, c'est une méthode. Si tu veux des gens ultra quali, tu vas dans un school à 50 balles par mois d'agence SMMA, tu leur envoies des messages. Je pense que c'est le meilleur tip que je puisse te donner, c'est que tu fais comme ça.
Ok. Et d'ailleurs, j'y réfléchis rapidement, il n'y a pas de tool pour automatiser l'envoi de SMS sur school?
Si, il y en a. Il y a des gars là, c'est mon associé qui m'avait parlé d'eux, de la French Touch, je crois, c'est leur nom.
Ok, bon.
Eux, ils ont fait un outil pour ça, apparemment, pour leur communauté, pour scraper sur School et envoyer du DM.
Bon, ça allait très très vite, parce que School, c'est assez récent, mais c'est intéressant. Okay.
C'est trop puissant, en vrai.
Je lui dirai, parce que j'ai rendez-vous avec lui jeudi, là, donc je lui dirai School hyper intéressant pour qu'il aille checker ça.
Hâte de voir si ça marche, honnêtement. Tiens-moi au jeu.
Ouais, écoute, on va voir. Hein. C'est vraiment, là, on teste, il a fait chauffer les emails. Donc, pour ceux qui ne savent pas, voilà, on va faire du cold emailing. On a besoin de chauffer les emails en amont, c'est-à-dire de faire semblant qu'on ait une vraie adresse email de quelqu'un de réel, quoi, et pas juste une IA. Et donc, il va commencer bientôt la stratégie marketing.
Ok.
Ok. Mais écoute, donc là, tu t'es déjà à 10K MRR, mine de rien. Donc, en fait, t'as déjà atteint le goal de pas mal de gens, mais ça s'est fait assez naturellement, quoi. En fait, t'as eu le product market fit. C'est-à-dire que t'as mis le bon produit en face du bon client et c'est venu un peu tout seul, les 10K. Enfin, tout seul. T'as fait beaucoup
de travail.
C'est
venu rapidement. Ouais. On a fait un gros travail quand même de recherche de partenaires et tout.
Ouais.
C'était énorme. Mais c'est vrai qu'on les a tapés très vite. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on donnait quand même 40% et quelques d'affiliation. C'est bien 10K, tu vois, mais déjà on est deux. Ensuite, on donne 40% d'affi. En vrai, c'est pas énorme, sachant qu'on avait des devs, tu vois, et on continue de développer constamment. En fait, 10K, c'est que dalle, en fait, quand tu prends tout ça en considération. C'est-à-dire que moi, je me payais pas à ce moment-là.
Ouais, parce qu'en fait, toi, avec le projet, comme tu payes les développeurs, c'est la main-d'œuvre, c'est sans doute le plus cher. Puis, t'as le système d'affiliation. Après, c'est ce que je recommande de faire aux gens. Au début, il faut faire un système d'affiliation hyper agressif pour essayer d'attirer pas mal de gens. Et avec ça, finalement, et avec ton associé aussi, où du coup, tu divises un peu les revenus en deux, il te reste pas grand-chose, quoi.
Rien du tout, même, pour être honnête. Et du coup, à ce moment-là, on s'est dit, OK, c'est très bien, on commence à scaler, on commence à être très content des résultats et tout. Mais la niche, elle est fébrile quand même. On voyait le churn qui baissait pas. On se disait, le jour où les affiliés, ils arrêtent d'affilier, ça sent pas bon, quoi. Et donc là, on a commencé à mettre des stratégies différentes en place. Et ce qu'on a fait comme stratégie, c'est très peu connu, en fait. C'est du reselling en white label. Donc en fait, on trouvait des autres gars comme nous qui avaient des communautés. On leur disait, salut, j'ai un outil. Il est parfaitement adapté à ta communauté. Enfin, on pense vraiment que ça pourrait bien se vendre. Plutôt que de te proposer juste un deal d'affiliation, si tu veux, On peut même faire un truc pour aller plus loin, c'est faire du white label. Donc en fait, on te brand sous ta marque. Toi, tu nous payes un certain nombre de licences, sachant que voilà, il y a un prix d'entrée, enfin c'est au moins 50 à 100 licences qu'on faisait payer minimum pour te faire le white label. Et comme ça, tu as ta propre marque et tu peux vendre ça à ta propre communauté. Tu n'as rien à faire, tu t'occupes juste de la vente. Nous, on s'occupe de toute la technique et voilà quoi.
Ouais, hyper intéressant, ça je pense comme stratégie, parce que tu peux aller contacter des influenceurs et leur proposer en fait un business préconstruit où tu leur dis, regarde, ça va être méga rentable, c'est ton nom, ta marque, est-ce que tu veux le faire? Et toi, un peu comme de l'affiliation, tu vas toucher des revenus grâce à lui. Et donc, c'est vraiment win-win à fond. Et du coup, c'est ce que aussi on fait Guay Level, dont on a déjà parlé plusieurs fois. Il est le même système, quoi, exactement. Donc, tu t'es inspiré, de Guay Level.
C'est ça, exactement. Et il y avait d'autres outils qu'il faisait, genre le bot Facebook qu'on avait, il le faisait aussi pour quelques personnes. Donc, ce qui est bien, c'est que c'est du high ticket. Donc, tu vas avoir des gens qui te payent très cher tous les mois. Voilà, nos resellers, en moyenne, payent entre 1000 et 3500 balles par mois. Donc, ça nous a rapidement permis de stabiliser le MRR pour compenser tout le churn, etc. Ouais. Et petit à petit, d'augmenter, parce que voilà, c'était beaucoup de prospection physique, de prospection manuelle. Donc, toujours en ligne, mais prospection manuelle à fond. Bien sûr, avec des bots qui envoient du message, etc. Mais après, le reste, c'était de la prospection. Donc, on discutait avec des gros, des créateurs, des formateurs, des coachs, tu vois, des mecs qui avaient des groupes, des gourous. Et tout ça en vue de leur proposer ce white label. Et en même temps, petit à petit, ce qu'on faisait, c'est qu'on vendait également les services de Go High Level. Donc, petit à petit, en même temps que tout ça, bah, il y avait la promo de Go High Level pour tous les entrepreneurs dans toute la communauté. Voilà, il y en a un bon 10%, tu vois, qui était quand même qualitatif et qui ont vu notre CRM, parce qu'on le pushait partout. Dans les emails, on avait des landings, voilà, dans les groupes, des offres spéciales. Et parce que tu peux le vendre le prix que tu veux, Go High Level.
Ouais.
On faisait des offres spéciales, des fois, les deux mois à 47 avant de passer à 97. Voilà, des offres vraiment, des offres annuelles aussi. 470 au lieu de 970 annuels, tu vois. Enfin, on a fait plein d'offres comme ça et on a réussi à faire rentrer beaucoup de cash comme ça pour, pour continuer à développer le projet à fond.
Parce que, ouais, du coup, encore une fois, ce qui est hyper intéressant, toi, c'est que vraiment, tu as tout un écosystème. Et donc, même quand on parle de 10K, en fait, avec le SaaS, tu avais aussi d'autres revenus à côté. Donc, avec, est-ce que je sais pas si tu avais déjà la formation Go High Level? Mais en tout cas, tu recellais déjà Go High Level en marque blanche, toi aussi.
Ouais. Bah, la formation sur Go High Level, en fait, j'avais une formation offerte à ce moment-là.
Ok.
Parce que Go High Level, c'est une tendance qui va faire que grossir dans le business en ligne, c'est sûr. Mm-hmm. Et donc, en voyant ça, je me suis dit, ok, j'ai toujours voulu me lancer sur YouTube. Ça m'intéresse dans tous les cas. Là, j'ai développé une expertise sur ce logiciel puisque tout notre business, il était basé sur Go High Level. On a fait les landings sur Go High Level. Que ce soit tout ce qui est les paiements, le SaaS, etc., tout était mis sur Go High Level. En fait, on utilisait Go High Level à 100% pour les newsletters, pour vraiment tout. Même notre plan d'affiliation, on va sûrement le switcher sur Go High Level là.
Okay.
Donc tout sera sur Go High Level. Et vu que j'ai utilisé Go High Level à fond, j'avais une expertise là-dessus, et donc je me suis dit allez, on va pouvoir se lancer sur YouTube et forcément les gros qui ont vendu Go High Level sur le marché américain, ils avaient une formation offerte.
Ouais.
Donc, j'ai juste suivi un peu la stratégie.
Parce qu'en fait, là, ouais, la formation, c'est un peu un lead magnet pour attirer les gens à utiliser le logiciel Go High Level pour les former dessus. Et toi, au moins, tu récupères l'espèce d'affiliation, une partie du revenu récurrent que Go High Level va générer justement avec ce client que tu auras ramené.
Exactement. Parce qu'un client sur Go High Level, quelqu'un qui paye Go High Level, en général, l'agence, elle reste toute sa vie sur Go High Level. Ouais. Enfin, toute sa vie, j'en sais rien, mais elle va rester des années.
Ouais. Parce qu'une fois qu'elle a pris ses habitudes, ses marques avec tous les outils, c'est dur de sortir de ce logiciel pour un autre, et surtout que Go High Level, il fait vraiment tout. Donc, c'est dur de trouver une alternative aussi complète, quoi.
Aujourd'hui, c'est impossible. Tu peux pas trouver un truc qui fait pareil. Et donc, moi, ça me fait des affiliés en même temps que je crée mon personal branding.
Ouais.
Ça permet de financer un peu mes vidéos YouTube, etc. Et tout ce temps que j'investis, même s'il est pas énorme, le temps que j'investis sur YouTube, au moins, il est rentabilisé rapidement.
Ouais. Écoute, carrément raison. Et ça me donne, moi, l'idée, du coup, aussi, pour aimant un client, de me dire pourquoi pas. Peut-être qu'il y en a qui vont être plus intéressés, en marque blanche. Tu vois, les influenceurs gourous du SMMA, peut-être que si je leur dis, tu peux vendre ça directement aux membres de ton culte.
C'est de plus en plus apprécié, la marque blanche, honnêtement. Sur les US, ils jurent que par ça maintenant.
Ok, donc c'est une vraie tendance qui marche bien aux US.
Ouais. Ah ouais, et en général, ce qui marche aux US, ça finit par marcher bien en France à un moment donné. Pas sûr à 100%, mais en général, oui.
Ouais, totalement, ouais. Ok, donc écoute, t'as le product market fit, t'arrives même à. T'as la bonne idée de faire de la marque blanche, ça c'est un truc auquel tout le monde n'aurait pas forcément pensé.
Les gens veulent pas faire ça en général.
Ouais.
Ça, ils sont réticents parce qu'ils se disent « Ah, je vais vendre mon produit, je file l'opportunité à quelqu'un d'autre. » Ils vont réfléchir comme ça.
Et techniquement, ça n'a pas été trop dur à mettre en place pour l'équipe de développeurs, etc. Ça s'est fait assez naturellement.
Non, ça va. C'est un peu de taf, juste ils dupliquent, ils te le republient avec un autre logo et les couleurs, on les change pas. Enfin bref, on s'embête pas. Hein. L'interface est la même.
Ok, on va pas s'embêter. Il te copie le code et il l'héberge ailleurs et après tu envoies une page de paiement Stripe ou un truc comme ça et tu fais payer.
Il te paye tous les mois, sachant qu'on a toujours la main sur l'extension. C'est pas la leur. C'est-à-dire que le gourou, le coach, etc., à qui on va faire l'extension en marque blanche, il aura la main sur rien du tout. Il va encaisser l'argent. Il va nous payer un prix fixe tous les mois, mais le projet n'est pas à lui, en fait. C'est écrit dans le contrat, c'est toujours notre outil. Lui, bien sûr, il y a tout qui est mentionné comme quoi ses clients, c'est ses clients, nos clients, c'est nos clients. Mais le projet ne lui appartient pas. C'est-à-dire que la marque, c'est toujours la nôtre. C'est juste
Il y a un contrat qui a été signé, etc., pour pas que vous fassiez douille, quoi.
Voilà. Parce que sinon, le gars, il peut très bien partir avec ton code et tout. Enfin, je veux dire, c'est trop facile. Donc, surtout qu'il y a des gars, ils sont pas toujours en France. Enfin,
et pour ce système de marque blanche, vous faites comment? Vous faites payer peut-être un paiement upfront
pour mettre en place. Et ensuite, c'est un récurrent avec un nombre de licences et un prix par licence. Une licence, c'est un compte, en fait. Un compte client.
Et l'acquisition client, elle se passe facilement pour les plus. Parce que là, c'est vraiment du high ticket. C'est vous qui allez contacter directement peut-être des influenceurs, des gourous?
Alors, il y a plusieurs choses. Soit c'est des recommandations.
Okay.
Donc, grâce au réseau qu'on s'est fait, etc., il y a des gens, notamment dans le MLM aussi, qui connaissent beaucoup de monde. Donc, des recommandations et de la prospection. On va directement prospecter avec des bots et des outils, que ce soit Insta, Facebook ou quoi.
Ouais.
Email aussi un petit peu. Directement des boîtes, des gros formateurs, des gars qui ont des groupes, etc.
Ok, ouais, je vois. Ok, intéressant. Mais écoute, là, on a fait tout le parcours de Instant Flow déjà. Et franchement, ça s'est bien passé. T'as eu surtout le défi du churn. T'as eu un autre défi, le fait que t'étais pas développeur, donc t'as dû quand même gérer des devs, etc.
Ouais, la confiance et tout, c'est pas facile ça.
Ouais. Mais je pense que déjà on en a tiré pas mal de valeur. Mais j'ai envie de finir avec une question. Qu'est-ce que tu comptes faire par la suite? Parce que je sais que t'as l'objectif de passer, de faire augmenter le MRR, il me semble à 60K ou 50K, je sais plus c'est quoi exactement l'objectif.
Avant la fin de l'année, ouais.
Ouais. Qu'est-ce que tu vas mettre en place justement qui va te permettre de scaler plus? Est-ce que tu vas réduire le churn? Est-ce que tu vas te concentrer plutôt justement sur les gros portefeuilles, les agences?
En fait, c'est simple. Là, on a fait un pivot récemment et on a switché tout sous une version plus parce qu'on n'y avait pas pensé avant et qu'on a fait plein d'erreurs.
Ouais.
Et en fait, ce truc-là fait qu'on a réduit le churn premièrement et surtout, on a découvert une nouvelle niche. Alors, je ne peux pas la dire là. Parce qu'il n'y a rien de sûr déjà. Et ensuite, j'ai pas envie de révéler ça.
Ok.
Parce que c'est trop gros.
Mm-hmm.
Mais là, il se passe en ce moment même, il se passe vraiment des choses qui vont potentiellement nous propulser, j'espère. En tout cas, on travaille dur, on va voir. Mais là, potentiellement, il y a des choses. En fait, c'est l'audience. C'est-à-dire que les SMMA, les agences SMMA, c'est une très bonne audience.
Mm-hmm.
On a potentiellement trouvé un vrai product market fit là. Sachant qu'on n'aura pas forcément à faire des grosses modifs. Et la version plus, parce qu'en fait notre outil marchait sur ordinateur à la base.
Ouais.
Donc c'est une extension Chrome que t'activais tous les jours pour lancer la prospection.
Mm-hmm.
C'est du semi-automatisé en fait.
Ouais.
Aujourd'hui c'est du 100% automatisé et il y a beaucoup plus de features. Avant on faisait que envoyer du DM, aujourd'hui on fait le commentaire, les likes, on a des filtres. On a réussi à implémenter ça dans les 3 derniers mois là.
Mm-hmm.
Parce qu'on a réussi à créer une version cloud de l'outil où c'est plus une extension Chrome où la personne elle va avoir à directement l'en lancer sur son ordi. C'est une version cloud qui marche dans le cloud en fait. Donc la personne, elle a un truc automatisé à 100%.
Ouais. Donc avant, ça se passait avec une extension. Maintenant, tout se passe dans l'interface, dans l'application web directement.
Voilà.
L'utilisateur n'a plus à se compliquer la tâche, etc. Il fait ses quelques petits clics là dans l'application et après, il peut quitter l'application et ça se passe tout seul. Quoi.
Ouais.
C'est ça. Okay.
Exactement. Il a tout à paramétrer. C'est comme il y a des outils LinkedIn qui font ça, tu vois, et ils le font bien et c'est ce genre de choses qu'on a mis en place. Là.
Ok. Bah écoute, hyper intéressant. J'espère que Instant Flow, comme tu le veux, va continuer à évoluer. Là, le product market fit que tu as dit, est-ce que c'est un nouveau SaaS ou on reste quand même sur le même SaaS?
C'est le même SaaS qui aura. La direction change un petit peu des fonctionnalités qu'on va développer.
Okay.
Et l'audience, la niche a changé drastiquement.
Ok, ouais, c'est surtout la niche. En fait,
c'est la niche.
Ouais.
On a remarqué ça parce que, j'ai eu une idée il y a. il y a 3 semaines, j'en ai parlé à mon associé. Et en fait, on voit que ça prend vraiment super bien par rapport à avant, en fait. Et on se dit, en fait, voilà, tout notre service, le système qu'on a créé, en fait, et même nous, en fait, on est vachement aligné avec ce truc-là. Et voilà, ça a l'air de très bien matcher pour l'instant. Il n'y a rien de sûr, mais ça a l'air de vraiment bien matcher.
Ok. Bah écoute, peut-être quand je te réinviterai quand tu seras à 50, voire 100K sur Instant Post, ça pourrait être intéressant de voir l'évolution en direct.
Ouais, avec plaisir.
Bon, en tout cas, pour ceux qui ont kiffé, tu as sorti une vidéo récemment sur les SaaS qui est exceptionnelle, honnêtement. C'est même mieux que sur la chaîne, les gars. Donc, allez-y en description. C'est vraiment très, très bien réalisé. Vraiment beaucoup de valeur et un bon montage, etc. La forme comme le fond, c'est très, très bon. Pour ceux que ça intéresse, n'hésitez pas à aller voir Instant Flow, tout ça, tout sera dans la description. Et puis allez te suivre sur YouTube. Je sais pas, t'es sur YouTube,
t'as d'autres réseaux. Gabrielli sur YouTube et je suis sur Insta et Facebook. Je travaille pas tellement mes réseaux pour l'instant.
Ok. Et s'ils reçoivent un petit DM sur Insta, est-ce que c'est le bot? Est-ce que c'est toi?
Non, c'est moi 100%. Fois, je l'active en plus. Des fois, je l'active pour faire des tests. J'oublie de le désactiver. Et du coup, il y a des gens qui viennent me parler et il y a une espèce d'IA qui les converse sur des trucs rien à voir. Et c'est super bizarre. Il faut que j'arrête d'oublier de le désactiver, de le laisser activer.
Ouais, ça marche. Ok. Bah écoute, merci beaucoup d'être passé. Hyper intéressant. J'espère que les gars, ça vous a plu. Likez, commentez, on gratte parce que voilà, on est youtubeur maintenant. Donc c'est comme ça que ça se passe.
Donnez de la force à Yanis. Elle est cool, sa chaîne. Et elle a de l'avenir, j'en suis sûr. Tu fais du super contenu, donc merci pour l'invitation au passage.
Ouais. Bah...